Radio Prague, les informations.
Bonjour et bienvenue à l'écoute. Alexis Rosenzweig au micro pour le bulletin d'information. Donc voici les titres. David Cameron est à Prague pour discuter des problèmes économiques de l'Union européenne. L'état de santé de Václav Havel inquiète son épouse. Et puis trois lycées de Prague en tête du classement du nouveau bac national. Le Premier ministre britannique David Cameron a répété à Prague ce jeudi que son pays n'était pas prêt à s'engager dans un plan de sauvetage financier de la Grèce dans le cadre européen. Selon le chef du gouvernement britannique, c'est au Fonds monétaire international de monter au créneau. C'est ce qu'il a indiqué après sa rencontre avec son homologue tchèque Petr Nečas. Petr Nečas avait quant à lui déjà indiqué que l'aide à la Grèce devait être puisée dans le fonds de secours de la zone euro, dont ne font pas partie Prague et Londres. L'actrice tchèque Dagmar Havlová, épouse du dramaturge et ex-président tchèque Václav Havel, s'est dite inquiète de l'état de santé de son mari aujourd'hui avant de partir pour le Festival international du film de Moscou. « J'ai hésité jusqu'au dernier moment pour prendre la décision de partir, car l'état de santé de mon mari n'est pas bon », c'est ce qu'a confié Dagmar Havlová à l'agence CTK. L'ancien président, âgé aujourd'hui de 74 ans, a toutefois beaucoup insisté pour qu'elle se rende à Moscou pour y présenter son film « Sur le départ », qui figure parmi les œuvres en lice. Madame Havlová interprète l'un des principaux rôles dans ce film, qui porte à l'écran la pièce de théâtre du même nom, écrite par Václav Havel après la fin de son mandat présidentiel. Trois établissements de la capitale tchèque sont arrivés en tête du classement publié par le ministère de l'Éducation après la première édition du nouveau baccalauréat. La maturita, c'est le nom du bac tchèque, est désormais nationale et les résultats des élèves de quelques 1300 lycées du pays ont ainsi pu être comparés. En tête du classement, le lycée PORG, dont le proviseur est le fils du président de la République, suivi du lycée Jan Neruda, qui a une section bilingue franco-tchèque, et du lycée de l'archevêché de Prague, Arcibiskupski Gymnasium. Science, selon une nouvelle étude menée à Prague par des scientifiques tchèques, publiée par le Public Library of Science, des chiens seraient capables de reconnaître les vrais jumeaux rien qu'à leur odeur. Lors de l'expérience, 10 bergers allemands entraînés appartenant au service de police ont correctement identifié les couples de vrais jumeaux par rapport aux faux jumeaux. C'est comme si les chiens pouvaient sentir une portion d'ADN qui serait différente d'un individu à l'autre, même chez des jumeaux. Une différence de code génétique influencée, selon les scientifiques, par l'alimentation de la personne et son environnement. Un mot de football avec l'équipe de République tchèque qui ne participera pas à la finale du championnat d'Europe Espoir des moins de 21 ans. Les juniors tchèques ont été battus par la Suisse 1-0. Dans la petite finale, la République tchèque affrontera la Biélorussie et le vainqueur de ce match, comme les deux finalistes, sera qualifié pour le tournoi des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Un mot sur la météo et un temps toujours très orageux en République tchèque, avec des températures légèrement en baisse, comprises entre 18 et 24 degrés pour les maximales. Plus d'infos, c'est sur notre site évidemment www.radio.cz. Et dans une poignée de secondes, c'est Václav Richter pour la suite du programme en français de Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque.
Libraires, éditeurs et lecteurs tchèques ont protesté place de la Vieille Ville à Prague contre l'augmentation de la taxe sur les livres. Le groupe artistique Stohoven est intervenu sur le monument rappelant la mémoire des leaders de l'insurrection protestante contre les Habsbourg en 1620. Tels sont les thèmes de la première partie de notre émission. Dans la suite de notre programme, Magdalena Rosinkova vous présentera un entretien avec la psychologue clinicienne franco-tchèque Béatrice Moedano-Brett. Merci de rester avec nous et bonne écoute. Des centaines de personnes ont manifesté ce mercredi sur la place de la vieille ville de Prague contre l'intention du gouvernement d'augmenter la TVA sur les livres et les périodiques. Ceux qui protestent contre ce projet du cabinet du Premier ministre Petr Nečas estiment qu'une telle imposition des livres nuirait gravement aux livres tchèques et au niveau culturel de toute la population. éditeurs, libraires, professeurs d'enseignement supérieur, écrivains, lecteurs, ils sont tous venus pour protester contre l'intention du gouvernement d'augmenter la taxe sur les livres à partir de 2013 jusqu'à 17,5%. Cette mesure réduirait la République tchèque dans ce domaine au rang de l'Albanie ou de la Biélorussie. Parmi les manifestants de la place de la vieille ville, il y avait entre autres l'évêque Václav Mali, le député František Bublan, le président du Parti des Verts Ondřej Liška et aussi le président du Pen Club tchèque Jiří Dědeček. Il a expliqué au micro de la radio publique tchèque la raison de sa présence parmi les manifestants.
Pour moi, c'est une mélange de blbosti et arrogance moci.
Pour moi, c'est un mélange de bêtises et d'arrogance du pouvoir. C'est ce qu'apporte cette malheureuse loi sur l'augmentation de la TVA.
Selon l'Union des libraires et des éditeurs tchèques, si le gouvernement augmentait la taxe sur les livres, cela ne ferait pas augmenter sensiblement leur prix, mais se reflèterait surtout dans une réduction considérable de nouveaux titres édités dans le pays. C'est ce que souligne aussi le président de l'Union des libraires et des éditeurs, Vladimir Pistorius.
Ainsi sera considérablement réduite la production des livres tchèques. Chaque année, la production des maisons d'édition sera réduite de 5 000 à 6 000 titres.
6 000 titres chaque année.
Déjà en 2008, lors de la première augmentation de la taxe sur les livres, la production annuelle de livres en Tchéquie a diminué de 1 800 titres. Selon Vladimir Pistorius, la réduction préparée par le gouvernement aboutirait aussi à la suppression de quelque 2 000 emplois dans l'imprimerie. Le premier ministre tchèque Petr Nečas ne partage cependant pas cette inquiétude du manifestant. Dans une déclaration pour le magazine Respect, il a récemment mis en doute ses prévisions en les qualifiant d'apocalyptiques. Selon Martin Vopienka de la maison d'édition Prar, Seuil, les éditeurs et les libraires refusent d'accepter la nouvelle taxe et préparent une stratégie pour défendre leurs intérêts.
Nous ne rendons les armes en aucun cas, mais nous ne voulons pas révéler notre future tactique. La loi doit passer maintenant par les deuxième et troisième lectures dans la Chambre des députés et nous verrons quelles seront les réactions à notre pression. S'il n'y a pas de réaction, nous entamerons de nouvelles protestations en automne. La loi doit passer par le Sénat où elle sera probablement rejetée et ensuite elle sera présentée en lecture finale à la Chambre.
A pak tedy půjde do finálního čtení někdy na podzim do sněmovny.
Les manifestants de la place de la vieille ville portaient des pancartes exhortant le gouvernement à ne pas lutter contre les livres, mais plutôt contre la corruption considérée par la majorité de la population comme le plus grand problème de la société tchèque. Les Tchèques sont fiers de leur culture livresque. Un tel manque de respect vis-à-vis des éditeurs et des lecteurs ne les laisse pas indifférents. Ils sont déjà 160 000 à avoir signé une pétition contre la nouvelle imposition des livres préparée par le gouvernement. Le collectif d'artistes Stoven a encore frappé. En marge des commémorations célébrant le 390e anniversaire de l'exécution des 27 seigneurs tchèques, dont nous vous avons parlé mercredi dans la rubrique « Chapitre de l'histoire », le groupe est intervenu sur le monument rappelant la mémoire de ses leaders de l'insurrection protestante. Reportage d'Anna Kubista.
Mardi après-midi, place de la vieille ville à Prague. La cérémonie d'hommage aux 27 seigneurs tchèques, exécutés le 21 juin 1621, vient de s'achever. Un petit groupe de personnes s'agglutine autour des croix blanches faites de pavés incrustés dans le sol. Et c'est un passant qui lance le débat.
Il y a eu 27 personnes exécutées, or il y a 28 croix par terre. Il y a une croix en plus. Ça a été fait l'autre jour, j'étais assis là et j'ai vu qu'il se passait quelque chose. Même les gens de la mairie ne s'en sont pas rendus compte pendant la cérémonie.
Une spectatrice historienne et son amie entendent la nouvelle et s'étonnent.
Il y a une 28e croix qui n'a rien à faire ici. Mais voyons, il y a eu 27 victimes, pas 28. Ça a été rajouté. D'après moi, on ne plaisante pas avec ce genre de choses. Peut-être que celui qui a fait ça a voulu se faire voir. C'est insensé.
Je vais aller protester à la mairie, c'est sûr, parce que ça ne se fait pas.
Dimanche matin, au vu et au su de tous, alors que la place de la vieille ville, ensoleillée, grouillait déjà de touristes, deux membres du collectif Storoven ont rajouté une croix blanche aux 27 déjà présentes. Un des membres du collectif, qui se fait appeler Yantar, explique.
Tous les ans ici se déroule une cérémonie en l'honneur de ces 27 seigneurs exécutés après la bataille de la Montagne Blanche. Premier événement qui a exercé une forme de violence sur la liberté de penser, chose qui s'est reproduite à plusieurs reprises, notamment au XXe siècle. La conséquence a souvent été des départs massifs des citoyens, notamment de l'élite. On s'est donc dit pourquoi commémore-t-on 27 victimes alors qu'il y en a eu beaucoup plus. En réalité, il y a eu 28 personnes condamnées de facto. La 28e était Martin Fruwein, un juriste qui est mort avant le jour de l'exécution.
Storoven, c'est un collectif qui s'est fait connaître à plusieurs reprises ces dernières années par ses actions coup de poing. Leur fait d'armes le plus connu, le hackage de la télévision tchèque en 2007 où ils font apparaître un champignon atomique dans les montagnes du nord du pays. Alors aujourd'hui, le groupe Storoven irait-il puiser son inspiration dans l'histoire du pays ? Yantar.
Je prendrais plutôt la question en sens inverse. Il faut chercher ce qui relie tous nos projets. Et le point commun, c'est qu'on essaie de dévoiler des formes de manipulation et de contrôle. Le champignon atomique pointait du doigt la manipulation des médias. Dans le projet Obchanka, on s'est amusé avec des cartes d'identité et on voulait montrer comment certaines institutions peuvent manipuler notre identité. Là, on s'intéresse à la manière dont on manipule l'histoire, mais pas seulement. On se pose la question de savoir ce que signifient aujourd'hui les monuments et les actions politiques qui se déroulent autour.
Pour une historienne interrogée par la télévision tchèque, cette croix supplémentaire n'est en fin de compte pas une erreur historique. Et pour les membres de Storoven, en tout cas, elle n'est pas là pour simplement choquer, mais pour susciter la réflexion. Yantar.
L'exécution des seigneurs en 1621 avait une force symbolique. Par cette performance sanglante, le pouvoir de l'époque a voulu montrer au public sa puissance. Or aujourd'hui, il se passe la même chose. Certes, on ne coupe plus de têtes, de langues, de mains, mais le pouvoir agit de façon différente, plus subtile. On peut trouver des équivalents à ces tortures et ces exécutions aujourd'hui. Ce n'est plus physique, mais mental. Par exemple, le néolibéralisme en place ici depuis 1989 cherche à s'approprier presque tout, à savoir l'art, la science, etc. Et certaines personnes qui veulent travailler dans leur domaine sont littéralement exécutées par le pouvoir économique. Leur position sur le marché n'est pas aussi valable que d'autres domaines économiques.
De son côté, la mairie de Prague n'a pour l'instant publié aucun communiqué officiel et déclare ne pas savoir encore que faire de cette intervention dans l'espace public. Parallèlement à ce nouveau projet, le groupe est toujours sous le coup de poursuites pénales pour leur dernier gros coup autour des cartes d'identité aux photos modifiées et attendent de savoir si l'affaire sera portée devant les tribunaux. En 2009, le hackage de la télévision tchèque, suivi d'un procès, avait abouti à une relaxe des membres du groupe Storoven.
Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission en langue française. Dans les Tchèques célèbres et moins célèbres aujourd'hui, Magdalena Hrozinková reçoit la psychologue clinicienne franco-tchèque Béatrice Moedano-Brett. Âgée de 36 ans, elle a fait des études de psychologie en France et en Belgique. Depuis l'été 2002, Béatrice Moedano-Brett vit en République tchèque, pays d'origine de sa mère. À Prague, elle donne des consultations aux adultes et aux enfants en tchèque et en français au sein du centre Psychotera, dans le quartier de Vršovice. Elle se consacre également au traitement du traumatisme chez les réfugiés et au travail avec les jeunes élevés en institution. Au micro de Radio Prague, Béatrice Moedano-Brett a parlé de sa biculturalité ainsi que des problèmes qu'affrontent ses clients tchèques et français.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres.
Béatrice Moedano-Brett, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes née dans une famille franco-tchèque,
oui.
N'est-ce pas? Comment vous avez vécu votre enfance, votre adolescence dans le milieu bilingue?
Eh bien, en fait, je ne m'en rendais pas trop compte au début que j'étais d'un milieu bilingue. Pour moi, c'était juste qu'avec papa, je parlais français, avec maman, je parlais tchèque. Mais l'âge avançant, à peu près vers l'entrée à l'école, je me suis rendu compte que j'avais quand même quelque chose de spécial et j'ai commencé un petit peu à m'en vanter à l'école en disant « oui, moi je suis tchèque ». Ça a fini d'ailleurs par énerver certains de mes amis qui m'ont dit « rentre chez toi
». Donc vous avez grandi en France ?
J'ai grandi en France, oui. J'ai grandi en France, on déménageait beaucoup, mais on était en France la plupart du temps. J'étais quand même 3 ans en Algérie aussi, mais principalement on était en région parisienne.
Et votre mère, comment elle s'est retrouvée en France ?
En fait, son amie était une correspondante de mon père. Et quand l'amie est partie en France, maman est allée avec elle et ils se sont mis ensemble.
Alors, avoir une double culture, c'est surtout une richesse, je dirais, mais est-ce que ça a des côtés négatifs aussi ou des côtés problématiques ?
Non, je dirais que non. Je pense qu'au contraire, c'est un avantage. Par exemple, à Noël, moi, j'avais les cadeaux le 24 au soir. Et mes amis étaient obligés d'attendre jusqu'au 25. Donc, à mon sens, non, je ne vois pas de côté négatif à être biculturel. Au contraire, je pense qu'on comprend beaucoup mieux même les autres cultures que les nôtres. On est plus préparé à comprendre, à s'adapter aux autres.
Est-ce que dans votre travail, vous travaillez aussi avec des problèmes, disons? Vous dites qu'il n'y en a pas, mais peut-être que d'autres gens peuvent avoir une autre expérience. Est-ce que les familles bilingues et des problèmes éventuels liés au fait d'être bilingue font partie de votre travail?
Oui, j'en ai quelques-uns, mais c'est pas vraiment dû au fait qu'ils sont bilingues, ou plutôt dans le sens biculturel. Le problème, c'est que ces enfants apprennent des petits deux langues, et parfois ça pose effectivement des problèmes. Il y a des enfants qui vont commencer, par exemple, à bégayer. Certains enfants vont avoir des problèmes après à communiquer avec les enfants de l'extérieur. C'est plutôt dans ce sens-là, dans l'apprentissage du langage, qu'il y a un problème, plutôt que dans la biculturalité.
Mais vous n'aviez pas ce genre de problème ?
Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai un accent français, je pense, quand je parle en tchèque, et je ne dis pas bien le R en tchèque. Ma grand-mère voulait me l'apprendre, mais j'ai refusé. J'avais peur d'oublier le R français.
Et comment vous vous êtes retrouvée en République tchèque ? Vous avez fait vos études en France et en Belgique, c'est ça.
Ma mère était installée ici, suite au décès de mon père, donc je suis venue, je l'ai suivie. Et puis de toute façon, c'était un rêve que j'avais depuis toute petite, de venir vivre ici, de voir comment ça fonctionnait vraiment. Parce que j'avais une image très idéale de la République tchèque, l'image des vacances, où vous ne faites absolument rien, juste vous amuser. Et je voulais voir ce que c'était la réalité.
Et vous avez des racines aujourd'hui ? Vous avez des racines plutôt ici ou en France ?
Ici, je suis à la maison.
Est-ce qu'il existe des différences entre les études de psychologie dans les pays francophones et en République tchèque ? Et ensuite, pour les nouveaux diplômés, quand ils veulent ouvrir leur cabinet privé pour les jeunes psychologues, comment ça se passe ? Ce sont partout à peu près les mêmes conditions ou pas ?
Je dirais qu'il y a des petites différences. Moi j'ai commencé mes études en France, j'ai fait ce qu'on appelle le DEUG là-bas, et la France est très dirigée sur la psychanalyse. Ensuite je suis arrivée en Belgique où j'ai terminé mes études de psychologie, et là-bas vraiment c'est très ouvert, vous avez la possibilité de choisir la psychologie que vous voulez, comportementale, psychanalytique, systémique, enfin il y a vraiment la possibilité de choisir. Donc je pense que sur ce point-là, la Belgique était, on va dire, mieux. En plus, l'avantage même par rapport à la Tchéquie, c'est que en Belgique vous êtes obligé d'avoir 1 an d'expérience. Donc vous partez de l'université et pendant 1 an, vous travaillez. Vous avez un soutien au niveau universitaire, vous pouvez poser des questions, vous avez des séminaires. Mais pendant 1 année, vous ne mettez pas les pieds à l'université. Et puis, vous retournez encore 1 année à l'université, apprendre les dernières choses dont vous avez besoin pour qu'on puisse vous laisser partir. Et je pense que ça, c'est très important parce que vous touchez à votre métier futur. Ça semble peut-être un peu tard d'y toucher à ce moment-là, mais d'un autre côté, au moins, vous savez si ça valait la peine de faire tout ça. Et ici, en Tchéquie, c'est énormément basé sur la théorique. Il y a très peu de vraiment de stages, ou alors si vous voulez les faire, vous devez les faire par vous-même, parce que vous le voulez. Alors qu'en Belgique, c'est très organisé. Il y a les centres de stage où on peut aller avec les références. Ici, c'est vraiment chacun fait comme il peut. Donc, à mon sens, pour les études de psychologie, le mieux, c'était vraiment la Belgique. Et puis, pour commencer à travailler, eh bien ça, je n'en ai aucune idée, puisque j'ai commencé à travailler ici. Bon, c'était déjà pas très facile de trouver une place, puisque j'étais quand même toute fraîche sortie de l'université. Mais une fois que vous y êtes, je veux dire, c'est quand même assez simple. Et puis après, il vous faut 3 ans d'expérience professionnelle pour obtenir l'autorisation d'ouvrir votre cabinet personnel. Voilà.
Vous donnez des consultations aux clients tchèques et français. Quel est le nombre de vos clients français? Quelle est la proportion par rapport aux clients tchèques?
Étant donné que je travaille, pas avec les assurances maladie tchèques, donc les gens sont obligés de me payer, eh bien, déjà, j'ai une certaine catégorie sociale de personnes. Et c'est vrai que les Français ont plus les moyens de payer que les Tchèques. Donc la proportion, je dirais, de Français est de 70% et 30% de Tchèques. Mais c'est principalement dû aux finances.
Est-ce qu'on peut comparer les problèmes de vos clients tchèques et français? Est-ce que ce sont des problèmes similaires ou pas?
Je dirais qu'ils sont très similaires. Très similaires. Moi, je ferais plutôt la séparation homme-femme plutôt que tchèque et français.
Et alors,
eh bien, les hommes qui viennent me consulter, souvent, ont des problèmes du fait qu'ils sont très stressés, qu'ils doivent beaucoup travailler pour ramener de l'argent à la maison, que les femmes ont certaines demandes par rapport aux hommes, du genre réparer la plomberie, ce genre de choses, que en plus les femmes attendent aussi qu'on s'occupe des enfants, et très souvent ce sont justement des hommes qui sont sous tension, qui sont dépressifs et qui n'arrivent pas à répondre à toutes les attentes de leur compagne ou de la société. Donc ça, c'est le côté des hommes. Les femmes, c'est plutôt dépression, problème de couple, problème avec les enfants qui ont différents comportements pas très adaptés, on va dire. Donc c'est plutôt les femmes, c'est plutôt tout ce qui est dirigé sur la famille. Et les hommes, c'est plutôt la sphère professionnelle et puis la pression sociale et familiale.
Et est-ce que quand même, pour revenir aux Français, oui, aux Tchèques, ils ont une approche similaire envers la thérapie? Est-ce qu'ils abordent les problèmes, ils les abordent différemment?
Oui, c'est pas tellement qu'ils les abordent différemment. Les Français ont beaucoup plus d'expérience en ce qui concerne la thérapie. Donc ils savent souvent déjà ce qu'ils peuvent en attendre. Les Tchèques au moins cette expérience, c'est pas encore très dans les mœurs d'aller voir son psychologue. Et souvent, ils ont des attentes un peu magiques. Ils arrivent ici et ils veulent recevoir une recette. Comment sortir de mon problème? Donc c'est sur ce point-là que parfois, je suis obligée d'être très claire pour dire que, ma foi, je ne suis pas une magicienne et qu'il faudra travailler dur. Les Français sont plus préparés à travailler en thérapie que les Tchèques.
Est-ce que les Français qui viennent vous voir ont justement des problèmes avec l'adaptation au milieu tchèque? Est-ce que ça existe?
Oui, et ce sont souvent des femmes qui ont ces problèmes-là. Parce que quand elles partent de France, elles se retrouvent dans un milieu étranger, sans amis, la plupart du temps sans emploi, donc enfermées à la maison, devant s'occuper des enfants, n'ayant plus de possibilité d'aller avec des amis, prendre un café ou d'avoir des hobbies. Et très souvent, ces femmes-là, justement, ont des problèmes d'adaptation parce qu'elles confondent, manque de confort, on va dire, social, et la République tchèque. Il y a certaines femmes qui se mettent à détester la République tchèque. Mais ce n'est pas dû à notre pays, c'est dû tout simplement au fait que ici elles ne se sentent pas à l'aise. Elles n'ont rien de ce qu'elles avaient avant. Alors c'est vrai, il y a quand même une communauté française qui se tient pas mal les coudes, qui ont des activités justement pour ces femmes-là, mais c'est pas forcément adapté à tout le monde. Donc oui, effectivement, il y a des femmes qui ont des problèmes d'adaptation, et même certains enfants qui arrivent là. Et c'est vrai, c'est un milieu quand même très restreint, le lycée français, certains amis français, et ça s'arrête là. Donc effectivement, il y a des problèmes d'adaptation.
C'était donc la psychologue clinicienne franco-tchèque Béatrice Moedano-Brett au micro de Magdalena Hrozinková. Et c'est la fin de la deuxième partie de notre émission. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur www.radio.cz/fr.